France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Rudolf Hess, le mystérieux bras droit d'Hitler. Longtemps installé comme le dauphin d'Adolf Hitler, Rudolf Hess est un personnage à part dans l'histoire du nazisme. Compagnon de route de la première heure du leader nazi, il l'a accompagné dans son ascension vers le pouvoir, s'affirmant au fil des années comme son plus fervent supporter. À Munich, Berlin ou derrière les barreaux de leur prison, l'un et l'autre ont noué une relation d'amitié portée par une même idéologie destructrice. Entièrement dévoué à son héros, Rudolf Hess va pourtant être cantonné à un rôle de second plan, tenu à l'écart au profit d'autres figures du régime nazi. Mais bien décidé à s'investir dans le conflit mondial et sauver un troisième Reich qu'il sait menacé, il se lance dans une improbable mission pour négocier seul la paix avec l'Angleterre, ce qui provoque la fureur du Führer. Notre invité aujourd'hui, Pierre Servent, journaliste docteur en histoire, enseignant à l'école de guerre pendant 20 ans. Il est l'auteur du livre intitulé Rudolf Hess, la dernière énigme du Troisième Reich. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Samedi 10 mai 1941, aérodrome militaire de Hofstetten, au sud d'Augsbourg. Rudolf Hess, l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, proche parmi les proches d'Hitler, se présente devant un hangar. Vêtu d'un uniforme gris d'officier et d'une combinaison de cuir, il échange quelques mots avec les mécaniciens qui terminent de préparer son Messerschmitt Bf 110, l'un des derniers modèles de la Luftwaffe, la redoutable armée de l'air allemande. Sauf devant la Royal Air Force, justement, la précision a son importance. Avant de monter à bord, il se tourne vers son aide de camp et lui confie une enveloppe destinée au Führer en personne. Le dignitaire nazi prend ensuite place dans le cockpit. Il se sangle, déploie ses cartes de navigation sur son tableau de bord et consulte une dernière fois les bulletins météo. Il est prêt. Rudolf Hess allume le moteur de son appareil et se dirige vers la piste de décollage. Il est un peu plus de 18 heures quand le chasseur allemand s'envole et met le cap vers la mer du Nord en direction des côtes écossaises à plus de 1300 km.
C'est l'un des événements les plus étranges et les plus étonnants de la guerre jusqu'à présent. Rudolf Hess, le numéro 3 du parti nazi, est prisonnier en Écosse après un mystérieux vol solitaire depuis l'Allemagne. Quelle est sa mission? Qui sait? Peut-être un projet de paix? Une fuite face à ses ennemis? L'Allemagne dit qu'il a perdu la tête. Hess dit que son voyage a pour but de sauver l'humanité.
Parti seul et dans le plus grand secret, Rudolf Hess s'est lancé dans l'une des missions les plus étranges et les plus énigmatiques de la Seconde Guerre mondiale, lui forgeant un destin rocambolesque. Mais qui est donc ce personnage dont la psyché pose tout de même quelques questions? Né à Alexandrie en avril 1894, Rudolf Hess est le fils d'un négociant allemand installé en Égypte. Revenu sur les terres de l'Empire pour sa scolarité, il a 20 ans quand la Première Guerre mondiale éclate. Dans un élan de patriotisme qui déplaît à son père, il prend les armes. Blessé à deux reprises sur le champ de bataille, le jeune lieutenant obtient son transfert dans le corps aérien de l'armée impériale allemande à l'été 1918, dans les dernières heures du conflit. Rapidement démobilisé et de retour du front, le jeune homme traîne une colère qui ne semble plus le quitter. Comme beaucoup d'Allemands, il ne parvient pas à se remettre de l'intolérable humiliation de la défaite. Et il fréquente avec assiduité les cercles nationalistes bavarois qui pullulent dans l'Allemagne d'après-guerre. Dans ses réunions, comme lors de violentes manifestations, Rudolf Hess fulmine contre les ennemis de l'intérieur, les Juifs et les milieux de gauche responsables de l'effondrement de l'Empire. Selon lui, évidemment. Il fustige également le traité de Versailles et critique avec violence la nouvelle République de Weimar. Violence, qui n'est à rien, pourtant, vu ce qui attend les Allemands et le monde. Inscrit à l'université de Munich, il est un étudiant médiocre. accaparé par son militantisme zélé, il ne semble s'intéresser qu'à un seul cours, celui dispensé par un ancien général de l'armée impériale, Karl Haushofer. Inventeur du concept de géopolitique, ce professeur de géographie s'impose rapidement comme le mentor du jeune Rudolf Hess. En cours ou lors de dîners privés avec son fils, Albrecht Haushofer, l'abreuve de ses théories aux accents nationalistes. En tête, celle du Lebensraum, l'espace vital. Une théorie selon laquelle la nation germanique, coincée au beau milieu de l'Europe, est trop à l'étroit dans ses frontières et doit s'agrandir. L'un et l'autre partagent également un penchant certain pour l'ésotérisme et l'occultisme. Tous les deux sont ainsi membres de la société de Thule, une société secrète qui arbore comme insigne une svastika, et dont parlent deux historiens dans un documentaire diffusé en 2016 sur RMC Découverte.
La société de Thule était une société secrète au sens large. Ses membres, notamment les Allemands, pensaient qu'il y avait une conspiration juive et maçonnique internationale. Donc, les francs-maçons complotaient en cachette d'après les nazis, tout comme les juifs. Juifs et francs-maçons associés cachés derrière leur société secrète. Donc pour lutter contre cela, ils créèrent à leur tour leur propre société secrète, la société de Thule.
Elle professe que l'homme est quelque chose qui peut être dépassé, qui peut exister un surhomme, qui crée un Reich pour 1000 ans, que cet homme probablement est sur le point de venir, qu'on l'a vu annoncé par un certain nombre de signes.
Durant l'été 1920, Hess et Haushofer se rendent ensemble à la réunion publique d'une jeune formation politique d'extrême droite, le Parti ouvrier allemand. Créé un an plus tôt, ce groupuscule fait de plus en plus parler de lui dans les cercles nationalistes bavarois. Et surtout, son leader, qui réussit à rassembler les foules, un certain Adolf Hitler. Vétéran de la Grande Guerre comme Hess, le jeune caporal s'impose en quelques mois comme le principal porte-voix du parti. Malgré un physique peu avenant, petit, malingre, bien éloigné des standards ariens, il parvient à galvaniser un auditoire toujours plus important. Un auditoire conquis par ses discours enflammés. Lorsqu'il assiste pour la première fois à l'un des meetings d'Hitler dans une brasserie de Munich, Rudolf Hess est subjugué. Quand le tribun hurle « Allemagne, réveille-toi !», le jeune homme entre dans une transe dont il ne va plus sortir. À sa fiancée, il explique avoir rencontré l'homme avec un grand H. Elle raconte que Rudolf Hess, jusqu'ici habité par une profonde tristesse, en permanence perdu dans des pensées moroses, est maintenant transfiguré, rayonnant de vie. Et très vite, l'étudiant à l'université de Munich devient spectateur assidu des prêches d'Hitler. Il lui voue une admiration sans limite et se met au service de celui qui est alors considéré comme un agitateur politique parmi d'autres. Dans une série d'échanges avec ses proches, Hess parle de cette relation qu'il entretient avec le nouveau visage de l'extrême droite allemande.
Hitler est devenu pour moi un ami très cher. C'est un homme éclatant. Il est issu d'un milieu très simple, mais il a acquis des connaissances gigantesques qui me laissent toujours pantois. Je le connais bien puisque je le vois presque tous les jours et que je suis en relation étroite avec lui. C'est un caractère pur, d'une rare correction, empli d'une profonde ardeur. Religieux, un bon catholique. Il n'a qu'un seul objectif, le bien du pays. Il a un sens exceptionnel de la sensibilité populaire, de l'instinct politique et une volonté gigantesque.
Toujours aux côtés d'Hitler, Rudolf Hess est le premier à l'appeler Führer, le guide. Il l'accompagne dans son ascension éclair à la tête du parti nazi, rebaptisé en 1921 NSDAP, ou Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Il participe aussi activement à la création de la SA, une milice paramilitaire directement affiliée à la formation politique. Présent à tous les rassemblements, il est un militant violent et prend part avec conviction aux affrontements avec les forces de l'ordre ou les groupuscules communistes. Le 9 novembre 1923, revolver à la main, il marche aux côtés d'Hitler et des principaux dirigeants du parti nazi lors d'une tentative de putsch contre le gouvernement de Bavière. Une tentative avortée qui se conclut par une condamnation à de la prison ferme. Enfermé dans la forteresse de Landsberg, Rudolf Hess occupe à la demande d'Hitler une cellule proche de la sienne. Ces cellules, confortables, plus proches des suites d'hôtels que des cachots, sont propices aux longs échanges entre les deux hommes. Hitler développe sa vision politique à Hess et ce dernier parle avec enthousiasme à Hitler de ses lubies ésotériques et de la théorie du Lebensraum de son cher professeur Haufhauser. C'est aussi derrière les barreaux que Hess assiste Hitler dans la rédaction de son pamphlet nationaliste, antisémite et raciste, le fameux Mein Kampf. Une collaboration qu'il raconte à sa femme dans des lettres envoyées depuis sa cellule.
En général, ma journée se déroule comme suit. Levé 5 heures, je prépare une tasse de thé pour Hitler, qui travaille à son livre, et une pour moi. Il me lit désormais régulièrement des passages de son livre. À chaque fois qu'un chapitre est terminé, il vient me voir avec. Il me le commente et nous discutons de tel ou tel point.
Lorsqu'ils sortent de prison en décembre 1924, Rudolf Hess et Adolf Hitler sont plus proches que jamais. Nommé secrétaire particulier du leader nazi, Hess s'impose comme la figure de l'ombre de celui qui n'a cessé de gagner en notoriété malgré son séjour en prison. En coulisses, il œuvre activement pour faire progresser le NSDAP. Figure respectable et policée du parti, il est à la manœuvre pour convaincre de grands industriels allemands de soutenir le mouvement nationaliste. Il parvient ainsi à décrocher un prêt important pour acquérir la Maison Brune, le nouveau siège munichois du parti nazi. Une grande bâtisse où Hess et Hitler sont les seuls à disposer de bureaux communicants. À partir du début des années 30, et alors que le NSDAP s'impose comme une force politique majeure en Allemagne, Rudolf Hess en devient l'un de ses principaux dirigeants. En 1932, Hitler le nomme même numéro 2 du parti. Bref, il en fait son dauphin. De conseiller de l'ombre, Hess devient personnalité publique. Ce grand jeune homme au visage carré et au regard assombri par d'épais sourcils devient une figure incontournable du mouvement. Lors des meetings ou réunions publiques, c'est lui, désormais, qui est le dernier à prendre la parole avant le Führer. En prédicateur convaincu, il harangue la foule.
Mon Führer,
vous êtes entouré des drapeaux et étendards du national-socialisme.
Si leur tissu pourrit un jour, alors les peuples comprendront la grandeur de notre époque. Et ils comprendront ce que vous, Führer, représentez pour l'Allemagne.
sensible sur France Inter. Aujourd'hui, Rudolf Hess.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation, unser deutsches Volk, Sieg Heil! Sieg Heil!
Après des années d'une irrémédiable ascension vers le pouvoir, le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier par le président Hindenburg. Le soir même, Rudolf Hess est présent aux côtés de son Führer. Depuis le balcon de la chancellerie du Reich, ils assistent ensemble au défilé de milliers de miliciens de l'ASA venus saluer la victoire du parti nazi. Désormais concentré sur les affaires de l'État à Berlin, Adolf Hitler place Rudolf Hess à la tête du NSDAP. Une position de confiance pour le premier lieutenant du Führer, qui est alors le seul à pouvoir signer des documents officiels à sa place, s'il vous plaît. Depuis Munich, il est l'un des premiers à prévenir le chancelier quand un mouvement de sédition s'empare d'une partie des dirigeants des SA. Et, pendant la nuit des longs couteaux, quand le Führer ordonne une gigantesque purge dans ses propres rangs, le dauphin, évidemment, est encore là. L'influence de Rudolf Hess ne se limite plus au seul parti. En 1934, il est nommé ministre sans portefeuille. Une attribution floue qui lui offre un droit de regard sur de nombreux aspects de la politique du gouvernement. Considéré par certains comme la conscience du parti, il est l'un des principaux rédacteurs des lois racistes et antisémites de Nuremberg. Mais il reste un dirigeant nazi à part. Aux côtés des Göring, Himmler et Goebbels, sa personnalité interpelle. On s'interroge en effet sur ses capacités mentales. On raille ses lubies ésotériques ou astrologiques. On s'interroge également sur l'objectif poursuivi par cet homme mystérieux qui semble se tenir à l'écart des luttes de pouvoir qui agitent Berlin. Une position singulière au sein du premier cercle du Führer, mais qui va peu à peu se retourner contre lui. S'il joue un rôle important durant l'annexion de l'Autriche et lors de la crise des Sudètes, il perd rapidement d'influence au profit des militaires qui entourent Hitler et qui entrent en action en septembre 1939, quand le projet expansionniste du Troisième Reich prend forme.
Françaises et Français, depuis le 1er septembre, au lever du jour, la Pologne est victime de la plus brutale et de la plus cynique des agressions. Ses frontières ont été violées. Ses villes sont bombardées, son armée résiste avec héroïsme à l'envahisseur. Le sort de la paix était dans les mains de Hitler, il a voulu la guerre. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Vive la France!
L'invasion de la Pologne par l'armée allemande et la déclaration de guerre des puissances européennes marquent un tournant majeur dans la trajectoire de Rudolf Hess. Obsédé par les questions de diplomatie et de stratégie militaire, Hitler écarte presque naturellement son vieux compagnon de route. Autour de lui, ce sont les stratèges en uniforme, ornés de médailles, qui s'imposent. Signe que le dauphin n'est plus en odeur de sainteté, l'omniprésent Hermann Göring, ministre de l'aviation du Reich, est placé devant lui dans l'ordre de succession. Une relégation que Hess vit comme une humiliation. Décidé à prendre part à l'offensive lancée par son Führer, il fait alors valoir ses états de service durant la Première Guerre mondiale et demande à intégrer la Luftwaffe en tant que pilote. Hitler refuse catégoriquement. Il lui interdit même formellement de piloter. Ainsi mis à l'écart, c'est donc depuis ses bureaux à Munich qu'il est contraint d'observer la déferlante allemande sur l'Europe. Seule consolation, il est convié aux côtés d'Hitler et des autres dignitaires nazis lors de la signature de l'armistice avec la France. Une signature dans une clairière de l'Oise, à Rotonde, exactement là où en 1918 l'Allemagne avait été humiliée. Grâce à une offensive éclair, Hitler et son armée sont parvenus à mettre une grande partie de l'Europe à genoux. Mais la guerre est encore loin d'être gagnée. L'Angleterre est toujours debout et continue de résister. une résistance militaire mais aussi diplomatique. À plusieurs reprises, le premier ministre britannique Winston Churchill refuse les offres de paix envoyées par Berlin. Car Hitler est conscient de la force des Britanniques, de leur tempérament, de leur courage. Alors, le Führer fulmine et intensifie la pression sur Londres.
Un avion allemand du type U-88, le plus moderne avion de bombardement en vol horizontal et en vol en piqué, s'apprête à décoller. La grande attaque sur Londres commence. Le maréchal du Reich, Hermann Göring, dirige personnellement de la côte de la Manche les attaques de représailles de son aviation. Sans répit, les avions allemands s'envolent vers l'Angleterre. Ils bombardent nuit et jour les buts militaires de la capitale anglaise. Les canons de la DCA anglaise tirent sans arrêt, mais le tir des Anglais est mal réglé. Les docks de Londres sont en feu. Et là, la réponse de l'aviation allemande aux attaques innombrables de l'aviation anglaise sur des buts non militaires en Allemagne.
Malgré des semaines de bombardements acharnés de la Luftwaffe sur la capitale britannique, héroïque, le pouvoir anglais refuse toujours de céder. Et l'inquiétude grandit au sein du premier cercle d'Hitler. Tous savent que le Führer entend se tourner vers l'Est et rompre le pacte de non-agression signé en 1939 avec Staline. Alors un second front se dessine en direction de Moscou. Ça fait beaucoup. Et c'est bien ce qui causera la perte de l'Allemagne nazie. Depuis Munich, où il est encore et toujours tenu à l'écart, Rudolf Hess en est conscient. Le Troisième Reich court à la catastrophe. Mais à l'inverse d'Hitler, qui lui semble résigné face au refus des Anglais de négocier, il est persuadé qu'une paix avec Londres reste possible. Hess remémore ainsi leurs longs échanges durant leur détention à Landsberg. L'un et l'autre ont souvent disserté sur la nécessité d'une alliance entre Anglo et Saxons. C'est d'ailleurs clairement exprimé dans la théorie du Lebensraum de Karl Haushofer, socle idéologique sur lequel s'appuie Hitler pour justifier son expansionnisme. Haushofer est catégorique. Aux Anglais le contrôle des mers à travers leur immense empire, aux Allemands la domination de l'Eurasie, de Brest jusqu'à Vladivostok. L'ennemi n'est donc pas le cousin anglais, mais le voisin soviétique. Durant l'été 1940, Rudolf Hess décide donc d'agir seul et de négocier lui-même la paix avec l'Angleterre. Il sollicite son ancien professeur et son fils, deux anglophiles parfaitement introduits auprès d'une partie de l'élite britannique. Parce qu'eux aussi sont persuadés qu'ils ont encore une carte à jouer. Alors que les bombes allemandes pleuvent sur Londres, certains membres de la haute société anglaise ne cachent pas non plus leur germanophilie. À l'image de l'ancien roi Édouard VIII, qui a abdiqué quelques années plus tôt en faveur de son frère, George VI. Anglo et saxon, comme un lien organique chez certains. Dans un documentaire consacré à cette figure controversée de la couronne britannique, le fils de Rudolf Hess revient sur les rencontres entre son père et l'ancien souverain.
À ma connaissance, mon père a rencontré le duc et la duchesse de Windsor au moins à deux reprises. La première, la veille de la rencontre entre Édouard VIII et Hitler, et une seconde fois quand mon père l'a invité chez lui, à Munich. Ma mère m'a raconté qu'ils sont allés faire un tour dans la cave à vin et qu'ils sont revenus tous les deux très enthousiastes. Apparemment, ils se comprenaient et s'entendaient bien, discutant notamment de politique. Par exemple, les deux étaient des anticommunistes farouches. Le duc de Windsor était un impérialiste, défenseur de l'Empire britannique. Et pour lui, la question centrale n'était plus de préserver l'équilibre des pouvoirs en Europe, mais d'établir un équilibre des pouvoirs dans le monde, ce que Churchill ne comprenait pas.
Au sein de la noblesse anglaise, comme dans la classe politique, ils sont nombreux à considérer que le vrai danger n'est pas le régime nazi, mais bien les communistes de Staline. Au sein même de son propre gouvernement, Winston Churchill doit batailler avec son ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, fervent partisan d'une paix avec Berlin. Mais face à l'obstination du premier ministre britannique, qui tente tant bien que mal de museler toute voix dissidente, il faut trouver le bon interlocuteur. Albrecht Haushofer suggère alors de contacter le jeune Lord Hamilton, qui dispose d'un accès direct au roi. Les deux hommes se connaissent et entretiennent une amitié sincère. Dans une lettre envoyée à son père, le fils Haushofer s'épanche sur cette piste à explorer.
Je fus immédiatement interrogé par Hess sur les moyens d'informer d'importantes personnalités britanniques du profond désir de paix du Führer. Il paraissait évident que la continuation de la guerre équivalait à un suicide pour la race blanche. Même en cas de victoire totale en Europe, l'Allemagne ne serait pas en mesure d'assumer l'héritage de l'Empire britannique. J'ai mentionné l'éventualité d'une entrevue dans un territoire neutre avec mon meilleur ami anglais, le jeune duc d'Hamilton, qui peut approcher à tout moment les personnalités les plus importantes de Londres, y compris Churchill et le roi. J'ai insisté sur l'inévitable difficulté que représentait la prise de contact, et j'ai spécifié que le succès de cette entreprise me paraissait douteux, quelle que soit notre méthode d'approche. En conclusion, Hess déclara qu'il reconsidérerait attentivement la question et me ferait savoir si je devais entreprendre des démarches.
Un premier courrier est envoyé au Lord anglais, sans réponse. Et pour cause, la lettre est interceptée par les services secrets britanniques. Rudolf Hess s'impatiente. Il sait que le temps presse. Le déclenchement de l'opération Barbarossa et l'ouverture du front de l'Est approchent. Il prend alors une décision incroyable. Il ira lui-même transmettre une proposition de paix au duc d'Hamilton. Sans en informer Hitler, il se lance dans la préparation d'un voyage insensé entre l'Allemagne et l'Écosse. Malgré son interdiction de voler, il parvient à convaincre l'industriel Willy Messerschmitt de le laisser piloter le tout nouveau BF-110 qui doit entrer en service d'ici quelques mois. Sous prétexte d'une mission secrète, il débute une série de vols d'essai dès la fin de l'année 1940. Depuis la base aérienne de Hofstetten, près d'Augsbourg, Hess peaufine sa mission. Il étudie minutieusement les bulletins météo et la cartographie, se plonge dans la mécanique de l'avion. Il fait également installer des réservoirs supplémentaires pour lui permettre d'atteindre Dangavel, là où se trouve la propriété du duc d'Hamilton, à 1370 km de la Bavière. Après 3 essais avortés en raison de conditions météo difficiles ou d'ennuis mécaniques, Rudolf Hess fixe une nouvelle date, le 10 mai 1941. Une date validée, figurez-vous, par l'un des astrologues qu'il consulte régulièrement. Avant de partir, il confie à son aide-de-camp une lettre à remettre en personne au Führer. À 18h, le numéro 3 du Reich décolle, avec dans sa poche une proposition de paix germano-britannique. Le vol est difficile. Près de 6 heures à tenter de naviguer hors de portée des radars allemands, puis anglais. Rudolf Hess doit même s'employer pour parvenir à semer 2 Spitfire de la Royal Air Force qui le prennent en chasse. Dans une lettre envoyée à sa femme quelques années plus tard, il se souvient des dernières minutes de sa traversée.
Demeurant à quelques mètres du sol, j'escaladais littéralement les pentes. Jamais encore je ne gravis une montagne aussi rapidement. Déviant légèrement sur la droite, je glissais sur l'autre versant. Survolant de nouveau un terrain plat, je rasais joyeusement les toits des maisons et les cimes des arbres en saluant de la main les hommes qui travaillaient dans les champs. L'altimètre indiqua que je prenais de l'altitude. Tout à coup, j'arrivais au-dessus de mon second point d'orientation, un petit barrage dans une étroite chaîne de montagnes. Là, je devais obliquer à gauche. Je n'eus pas à consulter la carte. Tous les détails, vitesse du vent, distance, restaient gravés dans ma mémoire.
Il est environ 23 heures quand Rudolf Hess a enfin son objectif en vue. Il sait que la propriété de son contact dispose d'une piste d'atterrissage, mais elle est trop courte pour permettre à son avion de s'y poser. De toute façon, tenter une telle manœuvre de nuit sans éclairage relève du suicide. Alors Rudolf Hess s'éjecte de son appareil et il se blesse en touchant le sol. Récupéré par 2 paysans écossais, celui qui se présente comme le capitaine Alfred Horn est rapidement fait prisonnier par des soldats britanniques envoyés sur place. Mais Hess n'oublie pas sa mission et demande à rencontrer au plus vite le duc d'Hamilton, car il croit encore en ses chances de succès. Le lendemain matin en Allemagne, son aide-de-camp se présente comme prévu au Berghof, la résidence secondaire d'Hitler. Il annonce avoir un message à remettre de toute urgence au Führer. Cueilli au réveil, celui-ci ouvre l'enveloppe et lit, consterné. « Mon Führer, quand vous recevrez cette lettre, je serai en Angleterre. » Page après page, Hitler découvre en détail la mission folle dans laquelle s'est lancé Rudolf Hess. Il semble bouillir de l'intérieur. Lorsqu'il arrive à la fin du courrier, il lit les derniers mots écrits par son plus vieux compagnon. Et si ce plan aboutissait à un échec, dites simplement que j'avais perdu la raison. Hitler enrage, hurle à la treize d'Ison. Il ne laisse aucune chance au plan de paix imaginé par Rudolf Hess et le déclare fou. Dans les jours qui suivent, tous les portraits de l'ancien dauphin sont détachés, sa mémoire est effacée. En Écosse, la mission prend l'eau. Arrivé à Glasgow le 11 mai, le duc d'Hamilton est sidéré en découvrant que le capitaine Horn est en réalité le Reichsminister Rudolf Hess. L'Allemand a beau affirmer être en mission humanitaire et lui présenter la carte de visite de son ami Haushofer, le lord anglais ne semble pas vouloir l'aider. Informé, Churchill ne veut pas en entendre parler et jette Rudolf Hess en prison. Alors qu'il comprend que sa mission a échoué, l'Allemand tente de se suicider en se jetant du troisième étage d'une cage d'escalier. En vain. Il semble ensuite tomber dans la folie et être pris d'amnésie, un état qu'il ne le quitte plus jusqu'à la fin de la guerre. En novembre 1945, il fait partie des 24 anciens responsables nazis assis sur le banc des accusés du procès de Nuremberg. Lorsque c'est à lui de prendre la parole, celui que beaucoup pensent fou semble avoir retrouvé ses esprits, pour un instant au moins.
J'ai eu la chance de passer de nombreuses années de ma vie à travailler sous la direction du plus grand fils que mon peuple ait engendré au cours de son histoire millénaire. Même si je le pouvais, je ne voudrais pas effacer cette période de ma vie.
Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe.
Je suis heureux de savoir que j'ai fait mon devoir envers mon peuple.
Meine Pflicht als Deutscher,
mon devoir en tant qu'Allemand,
als Nationalsozialist,
en tant que national-socialiste,
als treuer Gefolgsmann
et comme disciple loyal de mon Führer.
Ich bereue nicht.
Je ne regrette rien.
Cette prise de parole dans cette voie de fossé et dans laquelle Rudolf Hess réaffirme son allégeance à Hitler sera l'un de ses rares moments de lucidité durant les longs mois de procès à Nuremberg. Mutique, celui que les psychiatres peinent à cerner, refuse de reconnaître la légitimité de ce tribunal international. Et il traverse les audiences comme une ombre. Presque jamais il ne semble reconnaître ses co-accusés, jamais non plus il ne s'explique sur sa rocambolesque mission vers l'Écosse. En septembre 1946, il est reconnu coupable de complot et de crimes contre la paix. Condamné à la prison à vie, il fait partie des quelques accusés échappés à la pendaison. Enfermé dans la prison de Spandau, dans le secteur britannique de Berlin-Ouest, Rudolf Hess est désormais le prisonnier numéro 7. Et c'est le début d'une très longue détention. Et quand Albert Speer, l'architecte du Reich, criminel comme les autres malgré son air de ne pas y toucher, est libéré le 1er octobre 1966, 20 ans après le procès, Rudolf Hess, lui, est le seul des condamnés à rester derrière les barreaux. À plusieurs reprises, les responsables occidentaux plaident pour sa libération, mettant en avant le coût exorbitant de son maintien en détention. Mais les soviétiques refusent systématiquement. Avec le temps, les conditions de vie de l'ancien rédacteur des lois racistes et antisémites de Nuremberg s'améliorent. Il peut maintenant se promener librement dans le jardin de la prison et recevoir la visite de sa femme et de son fils. Mais jamais il ne livrera de nouvelles informations sur son vol vers l'Écosse. Le 17 août 1987, Rudolf Hess est retrouvé mort dans un petit bâtiment du jardin de la prison. À 93 ans et après 41 ans de prison, il se pend à un câble électrique. Il disparaît, sans jamais avoir livré ses secrets.
And that's why I'm addicted to the night.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'étrange Rudolf Hess, dont nous parlons avec notre invité Pierre Servant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, docteur en histoire et enseignant à l'école de guerre. Pendant 20 ans, vous êtes l'auteur du livre intitulé Rudolf Hess, la dernière énigme du Troisième Reich. Et votre dernier ouvrage s'intitule Les guerres modernes, racontées aux civils et aux militaires. C'est chez Perrin. On en dira un mot si on a le temps tout à l'heure. Revenons un instant sur ce Rudolf Hess, évidemment, et sur sa détention. Mais d'abord, il apparaît comme le dindon de la farce mortifère nazie.
Oui, en même temps, c'est un personnage qui aime le sacrifice. C'est-à-dire, il se vit d'une certaine façon comme quelqu'un qui, pour atteindre totalement la mort et l'amour du Führer, il doit pouvoir se sacrifier. Et donc, ce voyage absolument incroyable que vous avez décrit vers l'Écosse, qui a eu un retentissement, j'ai travaillé sur les archives de l'époque mondiale, c'était un événement incroyable. Quelque part, il y a l'idée que s'il se sacrifie totalement, qu'il prend le maximum de risques pour le Führer, pour établir cette paix entre l'Allemagne et les frères anglais de même race, entre guillemets, les mêmes Aryens, eh bien, il pourrait modifier la face de la guerre et retrouver complètement l'attention et même l'amour du Führer qu'il semble avoir perdu. Mmh. Donc, il y a vraiment un côté sacrificiel chez lui.
Et au bout du compte, alors vous me dites si je dis vrai, mais je crois que c'est le seul accusé de Nuremberg qui va être en prison à vie, puisque Speer, lui, est libéré, hein.
Tout à fait, et donc il va passer, enfin si on part de la détention de 41 quand il arrive, parce que Churchill le met dans une geôle, il va passer pratiquement 50 ans de sa vie en prison, et c'est assez étrange, vous posez d'ailleurs la question dans votre sujet, pourquoi est-ce qu'il n'est pas reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, parce que il est arrivé trop tôt, entre guillemets, en Grande-Bretagne pour porter la responsabilité, même si je pense que s'il était resté à Berlin,
oui,
il aurait tout à fait...
Je l'ai dit, aussi criminel que les autres.
Voilà, il aurait totalement endossé, parce qu'il était dans cet esprit de volonté. Enfin, c'est vraiment son projet intime avec Hitler, préparer la destruction de l'empire judéo-bolchévique. Et en fait, donc, il va rester en détention pour deux raisons majeures. La première, c'est que les Soviétiques ne lui pardonnent pas le fait d'avoir tenté une alliance avec les Britanniques qui auraient pu se retourner contre les Soviétiques. Et puis pour une autre raison, qui est une erreur de plaidoirie de l'avocat de Hess. Pendant le procès de Nuremberg, l'avocat de Hess essaye de mettre en accusation les Soviétiques qui étaient alliés des nazis. Et vous avez parlé du pacte de non-agression entre l'Allemagne nazie et les Soviétiques. Et dans ce pacte, il y avait un protocole additionnel secret dans lequel, en fait, les nazis et les soviétiques se partageaient l'Europe de l'Est. Et donc, au regard de ce document, les soviétiques tombaient sous le coup d'au moins 3 des 4 chefs d'accusation de Nuremberg. Et donc, l'avocat de Hess va essayer de jouer là-dessus, à la suite d'une série digne d'un roman d'espionnage, pour retrouver le texte originel et pour pouvoir mettre en accusation les soviétiques. Et les soviétiques qui sont au rang des procureurs, et ça, les soviétiques ne le lui pardonneront jamais. Mmh. Et donc, il pourrira en prison jusqu'au bout, tout seul, gardé par 4 puissances dans ce théâtre d'ombre de la prison de Spandau à Berlin.
Et c'est donc pour ça que Moscou refuse systématiquement les demandes de libération.
Complètement, c'est bien clair. Là, j'ai trouvé dans les archives anglaises tous les textes, les demandes faites par les 3 autres pays, donc les Américains, les Britanniques et les Français. À chaque fois, les Soviétiques, c'est très simple, c'est niet.
Alors, Hess portait finalement l'intention d'Hitler d'une paix séparée avec l'Angleterre. Alors, il y a un lien anglo-saxon, mais ce qu'ils avaient compris tous les deux, qu'on ne doit pas faire la guerre à ce pays-là. Sa force navale, son héroïsme, son côté insulaire, il ne faut pas les attaquer.
Oui, et puis d'autant plus qu'il y a...
Et ça vaut pour aujourd'hui hein, aussi,
oui,
j'imagine.
Oui, oui, oui. Malheureusement, une partie de la haute société britannique partage l'antisémitisme des nazis. Et cette haute société, avant la guerre, a cessé de dire aux nazis: mais pourquoi êtes-vous aussi braillard? Pourquoi vos SA dans la rue attaquent les magasins juifs, etc.? Chez nous, les juifs n'ont pas accès à nos clubs. Mais vous ne verrez jamais un panneau interdit aux juifs. Donc il y a aussi une vision hégémonique mondiale à travers des empires. Et puis, malheureusement, pour une partie de la gentry britannique, l'antisémitisme qui relie les deux pays. Et vous l'avez dit dans votre sujet, Hess considère, Hess qui a vécu en imprégnation anglaise en Égypte, qui dit à Hitler, mais demain il y aura deux empires, l'empire britannique qui règne sur la haute mer et qui avec 200 000 hommes règne sur 4 millions d'individus dans le monde, 400 millions d'individus dans le monde, et il y aura l'Allemagne nazie avec le Lebensraum, l'espace vital, quand on aura détruit...
Pour l'Europe centrale et l'Est.
Pour l'Europe centrale, voilà. Et donc ce seront les deux grandes puissances qui, main dans la main, domineront le monde demain. C'est ça la vision intime, forgée en prison et pendant toutes les années de la montée vers le pouvoir entre Hess et Hitler.
Et c'est là la force de Churchill, parce qu'il y a quand même une pression de la part de certains ministres de son gouvernement, notamment Lord Halifax, quand Churchill propose la fusion des armées britanniques et française, le temps de la guerre. Halifax répond non, on ne s'allie pas avec une puissance vaincue. Donc on fait les yeux doux à l'Allemagne. Et Churchill résiste, hein, c'est un vrai résistant. Hein.
Alors écoutez, vraiment, je déborde d'admiration pour Churchill, personnage improbable, alcoolique, loser, considéré comme un perdant.
Avec les Dardanelles.
Les Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale, etc. Mais qui, très tôt, peut être le seul homme politique important britannique à avoir compris la nature profonde du nazisme. Une puissance de destruction satanique avec laquelle il est impossible de transiger, de passer le moindre accord. Et accroché à cela, tamponné, accroché par le parti de la paix, les anciens favorables à Chamberlain, à Halifax, etc., il va tenir, il va résister. Et ce que j'ai découvert dans les archives britanniques, c'est que l'arrivée de Hess réveille le clan de la paix, l'ancien clan Halifax, qui se disent, mais on a un personnage essentiel en Allemagne nazie.
Quelle caution !
Qui vient ? Il faut l'écouter. Et donc, j'ai découvert dans les archives anglaises des demandes d'entretien avec Hitler. Dans ces archives, il y a des endroits qui sont encore caviardés, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur X. Est-ce que c'est un membre de la famille royale ? On a parlé du duc de Kent, on a parlé du duc de Windsor. Là-dessus, les archives ne parlent pas, mais il y a des noms de hauts membres de la société britannique qui sont encore effacés dans les archives pour ne pas révéler ça. Donc, le vol de Hess est complètement dingue, déraisonnable. Mais il est raisonné de la part de Hess et il s'appuie sur certains éléments britanniques. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'avec Churchill à la tête de cet État, c'est impossible. Et donc, merci à Churchill, car si le clan Halifax avait été au pouvoir, évidemment, les historiens, je suis historien, ne refont pas l'histoire avec des si.
Mais pas des chronies.
Voilà, mais heureusement que Churchill était là, qu'il a parfaitement compris ce que représentait Hitler. Et vous savez qu'à ce moment-là, Churchill, alors qu'il est en difficulté sur le plan militaire, il réfléchit déjà au tribunal de Nuremberg pour juger les criminels nazis, Rudolf Hess en premier.
On se retrouve dans 3 minutes, on écoute Gaëtan Roussel, ta part.
Ta part de savoir, d'oublier, de revoir. Ta part de bonheur, de pleurer quand sonne l'heure. Ta part de crier, de contredire. Oui, de t'enfuir, ta part de vivre le meilleur comme le pire, ta part de vouloir, de recevoir, de réussir, ta part de sourire, de regretter et de ne rien dire, ta part entière, ta liberté, tendre et chère, ta part d'ombre, de lumière. Des sons. Ta part de virage, de ligne droite, tes deux visages, ta part d'ange et de démon, ah oui, ta part change, ta part de raison, ainsi soit-il. Quelque chose de spécial, ta part d'horizon, d'inutile ou d'idéal. Ta part de je t'aime. tes poèmes, ton éphémère, ta part de lueur, de regret, de droit à l'erreur, ta part de savoir, de devenir, de désespoir, ta part de souffrir, de n'être rien ou de n'être pire, ta part semblable, oui désirable, oui remarquable, ta part de tenir, de simuler, de ne rien dire.
France Inter. Affaires sensibles.
Pierre Servan, on a beaucoup parlé de Churchill, on va revenir sur Rudolf Hess et sur sa détention à Spandau. Comment se comportait-il? Que sait-on de cette détention? Et est-ce que, par hasard, il aurait dit des choses à ses gardiens que l'histoire n'aurait pas forcément retenu parce que pas assez précis, quoi?
En fait, alors il est plutôt un détenu modèle, il semble faire un retour vers la foi, hein, c'est un luthérien à l'origine, et donc il y a des pasteurs, notamment français, qui vont l'accompagner sur le plan spirituel, qui vont témoigner du fait qu'il a abandonné les rives de l'antisémitisme, mais il reste néanmoins jusqu'au bout un hitlérien, c'est-à-dire un amoureux de la figure d'Hitler. Et puis, il y a surtout un document assez étrange, c'est qu'un des directeurs de la... un des quatre directeurs de la prison, puisqu'il tourne, le Britannique, qui est un colonel, qui s'appelle le colonel Bird, va profiter de sa position, ce qui est absolument interdit par la déontologie, pour interroger longuement Rudolf Hess, et va publier un livre. D'ailleurs, Bird sera viré de l'armée, etc., mais publie un livre. Il n'y a aucune révélation majeure de la part de Hess, mais on comprend sa psychologie, on comprend finalement que c'est un personnage assez torturé, qui était partagé entre la figure paternelle extrêmement autoritaire, très dominatrice, et sa mère très romantique. Donc tout ça se passait en Égypte, dans le pays des pharaons, avec un petit enfant, Rudolf, passionné par les personnages,
les
pyramides, mais aussi tout l'univers fantasmagorique des religions, des différents cultes égyptiens. Mais il n'y a pas de révélation majeure, et donc Rudolf Hess, contrairement à ce qu'on peut dire des auteurs britanniques un peu farfelus, ne détenait pas de secret majeur. Donc c'est intéressant sur la psychologie de Hess, mais il n'y a pas voilà. Mais donc c'est un prisonnier modèle qui étudie, qui regarde à la télévision, qui se passionne pour la conquête spatiale, qui a de l'admiration pour l'État d'Israël. Oui, donc personnage étrange qui a le temps en prison seul d'évoluer, parce qu'au bout d'un moment il est tout seul, donc il se balade, il fait de longues promenades. Quand il était jeune, il adorait les balades en montagne, il partait, etc. Et donc là, il n'est pas dans les montagnes, il est dans un petit quadrilatère, mais il ne cesse de faire des allers-retours et il calcule le nombre de pas qu'il fait tous les jours.
Alors, on a parlé des penchants de Hess pour l'occultisme, l'ésotérisme. Je rappelle, vous me confirmerez que la croix gammée vient d'un symbole païen ésotérique, hein. Ça, on est bien d'accord.
Oui, et repris par, vous l'avez évoqué, par la société de Thulé, qui est cette société à laquelle Hess adhère après la guerre, et dont le symbole est une croix gammée, avec pas d'angle droit, c'est plutôt arrondi, avec un glaive, et une feuille de chêne, si je me souviens bien, qui entoure ça. Et il est possible que Hess ait montré ça à Hitler. On sait que c'est Hitler qui a dessiné lui-même la croix gammée et les couleurs de l'emblème nazi, donc rouge, blanc et la croix gammée noire au centre.
Ça veut dire que le cerveau d'Hitler était disponible pour l'occultisme, l'ésotérisme ?
Oui, et on lui prête le fait qu'il croyait aussi à cela. En fait, il se vit comme, entre guillemets, le messie de l'Allemagne humiliée par la défaite. Il se vit comme cela et autour de lui, il y a une petite équipe, dont Hess, qui Hess lui dit, oui, les planètes, vous êtes l'homme qui vient, etc. D'ailleurs, il appelle en privé Hitler l'homme avec un grand H. Il aurait pu dire...
Oui, on l'a dit, oui.
Ouais, il aurait pu dire le Messie. Donc, tout ça joue un rôle important pour Hitler. Donc, effectivement, il y a tout cet environnement un peu Hess quand il décolle. Il a vu un alignement de planètes à ce moment-là. Il s'est dit, bon, c'est le moment où il faut que je décolle.
Alors, quel est le rôle purement intellectuel et politique de Rudolf Hess dans la montée du nazisme? Quel est exactement son rôle dans l'écriture de Mein Kampf?
Alors, ça n'est pas, comme on l'a dit pendant longtemps, Hess qui s'est contenté de taper à la machine sous la dictée de Hitler. Les derniers travaux historiques montrent que c'est Hitler qui a tapé lui-même Mein Kampf, à partir d'une matrice qui était pour lui, quand il était en détention préventive, avant d'être jugé, qui devait être pour lui un argumentaire pour son procès, et aussi une vingtaine de feuillets destinés à ses relais dans l'Allemagne, ses relais nazis, de défendre sa position. Et c'est à partir de cette matrice qu'il a étoffé, et à la suite de discussions aussi avec le Balte Rosenberg, qui est également un théoricien, il est passé par la société de Thulé, un théoricien de la destruction de l'Empire judéo-bolchevique. Mais là, Hess, qui est passé par le professeur Haushofer, dont vous avez parlé, l'inventeur de la géopolitique, va vendre à Hitler le Lebensraum, l'espace vital, l'expansion vers l'Est, et il va apporter des idées Hitler, et ils vont avoir un discours, une maïeutique ensemble. Donc c'est beaucoup plus qu'un simple secrétaire qui aurait tapé la machine.
Ça renvoie à ce que je disais dans le récit, aussi criminel que les autres.
Ah ben oui, tout à fait. Mais vraiment, il est l'homme le plus proche d'Hitler. Il y a une connivence entre ce que...
Alors, justement, c'est important. Est-ce que la dérive de Hess est liée aussi au fait qu'il était écarté au profit des autres, des Goebbels, des Himmler et compagnie? Et on sait que dans l'entourage d'Hitler, ils se détestent tous. C'est un panier de crabes.
Complètement, c'est un panier de
Donc,
crabes.
Donc il est victime de ça avant tout?
Oui, parce que lui qui était... ce que j'allais dire, c'est que c'est le bohémien et l'égyptien.
Oui. Hein,
alors le bohémien, parce que Hindenburg traitait Hitler de bohémien parce qu'il était autrichien, la Bohème Moravie, et Hess, il est égyptien d'origine, et il en a souffert en Allemagne, il a été méprisé à l'école, l'égyptien, donc ce sont deux personnages qui sont pas des Allemands pur sucre.
En plus.
L'un est autrichien, traité de bohémien, l'autre égyptien, même s'il se sent profondément allemand, donc ils ont en commun ce sentiment d'être des à part, des personnages en dehors du cadre, et la guerre venant, Hess qui est homosexuel, c'est très clair dans les documents que j'ai lus dans les archives britanniques, est amoureux d'Hitler. Il n'y a aucun élément qui permette de penser, même s'ils étaient dans des cellules conjointes à Landsberg, qui ait eu la moindre réalisation de cela, mais il aime Hitler de cette façon. Et le fait d'avoir le sentiment d'être écarté par la guerre qui met au pinacle des personnages qu'il déteste, comme Göring, c'est pour lui une souffrance absolue.
Bien, tout cela est très clair, Pierre Servan. Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Rudolf Hess, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Potier.